Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Notre invité est l'un des visages et l'une des grandes voix du rugby français. Et il tient ce rôle avec passion. Il est même parfois surnommé le poète de l'Ovalie. Il manie les mots aussi bien que le ballon. Le rugby, il le décrit, il l'interprète, il le vit, il le chante. Quand certains y voient un sport de brut, lui vous le rend délicat, humain, collectif. Lui vous parle d'aventure humaine, de cohésion de groupe, d'unité dans la diversité. D'ailleurs, c'est le mot équipe qu'il a choisi de défendre dans le livre de Philippe Spanghero, Au cœur de l'Ovalie. Un groupe d'humains qui s'agrègent avec amour autour d'un projet commun, écrit-il. Le rugby, sport rempli de belles valeurs, de belles personnes, chéri par quelques millions de téléspectateurs chaque semaine, et pourtant pratiqué par quelques centaines de milliers seulement. 300 000 licenciés quand le football en compte plus de 2 millions. Le tennis, plus d'un million. Pourquoi le rugby touche-t-il encore peu de jeunes? Pourquoi, même lorsque le 15 de France brille en compétition, le rugby reste-t-il le sport d'une région, d'une culture, une pratique un peu confidentielle? Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue à vous, Daniel Herrero. Merci d'avoir accepté notre invitation ici, au Sénat, au Dôme Tournon. Je le disais, le rugby n'est qu'à la 10e place des sports pratiqués en France. Derrière le foot, évidemment, ça je l'ai dit, mais aussi derrière l'équitation, derrière la natation, derrière le canoë-kayak. Il y a un vrai contraste entre la médiatisation de ce sport et le nombre de licenciés. Comment vous l'expliquez, vous ?
C'est pas si facile, Rebecca. Hein, ouais. Le jeu de rugby, on sent que sur le territoire national, il a un rayonnement, que son rayonnement est allé croissant au crescendo dans les 20, 30 dernières années, ou 40 même, et qu'il est en développement, mais il est en stagnation sur le nombre de licenciés. Le nombre des clubs a augmenté, il est quand même assez conséquent. 300 000 licenciés, c'est pas rien. Tu vois, sur le terrain, ça atteste quand même, un, une affection, deux, une polarité éducative. Le jeu, il a un accueil, une écoute. Mm-hmm. Dans la frange jeune, les clubs sont plutôt riches, et les écoles de rugby dans les clubs sont plutôt riches. L'équipe nationale, avec des hauts et des bas, le sort d'une dizaine d'années, dire de pénibilité, de difficulté, de peu d'expression, de joie et de talent, tu vois, de panache tel que la culture française l'aime. Dans les deux, trois dernières années, elle a retrouvé du lustre. Dans les temps récents, elle est même en appétit pour la grande gloire. Tu vois, nous savons qu'à moyen terme, il y a le pétillant du grand rendez-vous mondial qu'on appelle la Coupe du Monde. Assez difficile à dire. Moi, je pense que la croissance est incontestable. Je pense aussi que les qualités du jeu ou les caractéristiques du jeu, c'est un jeu rude. Ouais. C'est un jeu, évidemment, aujourd'hui, tout azimut.
Dont les règles sont très compliquées aussi.
Pas tant que ça, Rebecca. Oh. Si on regarde bien, de fait, il y en a trois ou quatre qui sont totalement essentielles pour que quelconque personne puisse le lire à 80%.
La base, on la comprend. Mais voilà. Ça reste plus compliqué qu'une partie de football, quoi.
Oui, alors là, il faut dire que c'est d'une simplicité aux limites de l'équivoque.
Oui.
Tu vois, tu dis quand même à ce point. Mais non, le jeu de rugby a trois ou quatre règles qui sont essentielles pour en comprendre l'esprit, pour ne pas dire l'âme. Tu vois, le jeu, il se concentre autour de deux ou trois trucs. Hein, le grand groupe, le solidaire, le partage, le rude du monde. C'est autour de ça que, ouais, tu vois. Ouais. Et après, il y a une multitude. Ouais. Tu vois, il y a plus de 120 règles qui sont venues s'additionner comme ça, mais qui, de fait, ne transforment pas le sens base du jeu. D'ailleurs, tu peux regarder un match de rugby, il y a 100 règles que tu comprends pas, c'est pas bien grave si tu comprends le sens de l'affrontement, du groupe et des solidarités.
Mais c'est aussi un sport qui reste cantonné à certaines régions de France, qui n'est pas partout, qui ne rayonne pas partout.
Ne prends pas ombrage, Rebecca, mais il y a un vieux poncif qui fait que cette pratique apportée par les Anglais, inventée par les Anglais au 19e siècle, elle s'installe sur la terre sud de France, par l'intermédiaire autour de Bordeaux, puis ça rentre un peu sur le grand sud, le grand sud-ouest, pour l'essentiel. Ouais. De fait, non, très vite, il se développe dans toutes ces zones-là, du Pays basque au Pays catalan, tu vois, en passant vers le centre France, le massif. Tout ça était très, très ovale. Mais la vallée du Rhône l'est aussi, historiquement, et même la Provence. Moi, je suis issu, Toulon, tu vois, il y a un club centenaire. rien. Mmh. Il reste que l'image, là où c'est le plus fertile, le plus fécond, le plus abondant, le plus festoyant, mmh. le plus, peut-être même rudoyant, le plus authentiquement terroir, ouais. c'est dans le grand sud-ouest de, ouais. De la France.
Un événement comme le mondial, j'imagine, va créer des vocations, peut être un tremplin, vous le voyez comme ça
Je le sens, je le ressens et je le trouve un peu forcé, par exemple.
Ah,
peut-être,
ouais.
mais tu étais toute petite, toi, Rebecca.
Pas sûr.
En 2007, il y a la Coupe du Monde de rugby qui a eu lieu en France. En 2007, ça ne remonte pas à des lustres, tu vois, ça fait quand même que 18 ans. Et de fait, la France ayant été dans cette compétition-là de 2007, relativement piteuse, peu flamboyante, déclenche un peu de ce qu'on pourrait appeler d'appétit, d'écoute, d'éveil et même d'attirance, ou d'empathie quasiment, non, ça n'avait pas généré des grandes turbulences. Celle-là, là, qui s'annonce, là, on est à une encablure, tu vois. Ouh, là, il y a quelque chose. Là, ça pétille. Ça pétille en talent, ça pétille en comportement. Ouais. Ça pétille en... C'est difficile à dire. Je ne veux pas dire, tu vois, en cœur de France. Mmh. Ouais. Ben, cœur de France, ça veut dire... C'est assez joyeux.
Là, vous voyez aller loin, cette équipe nationale, ou pas?
Ah, l'équipe nationale, elle a tous les attributs. Alors après, tu ne peux pas ignorer, le sport a un champ d'indécision assez conséquent. Hein. Mmh. Et maintenant, ça fluctue vite, d'un jour à l'autre, d'un match à l'autre, parce que c'est très tributaire de l'aventure de l'équipe. Et une équipe, une seule parole tueuse dans ce collectif-là, peut abîmer un collectif qui a mis 7 ou 8 ans à se construire, à s'élaborer, tu vois, à se constituer. Quoi. Maintenant, quand même, quasiment tous les paramètres sont réunis. C'est sur la terre de France où il y a un amour débordant. Mmh. Un amour débordant, tu sais. Le peuple, le peuple de Dovalie peut-être, le rugby de France, tu vois. Non, mais enfin, quand même, il y a dans le champ social français aujourd'hui une espèce de considération, d'affection pour le rugby français. Mm. Et cette affection, elle est sur... Ah, il y a des talents, il y a des enfants du pays, il y a un volume de jeu. Il y a en même temps, ce qui est une des caractéristiques essentielles de l'affection que l'on peut porter à ce jeu, il y a grande humilité.
Le rugby, vous êtes né dedans. Hein. Votre père était un bon joueur. Votre mère vous emmenait le voir tous les dimanches après-midi. Il jouait pour le club de la Seine-sur-Mer, dans le Var. Vous entendiez les adultes autour de vous dire « Herrero, il est vaillant ». Et puis vos trois frères jouaient aussi, dont un à très haut niveau, je crois. Le ballon devient très vite votre meilleur ami. Vous dites « Je jouais à la balle dès que je pouvais. Il n'y avait pas de livres, pas de musique, pas de radio chez nous. Tous ces champs-là étaient obstrués. La balle avec laquelle je m'amusais dans la rue était tout ». Finalement, le chemin était tout tracé, non? Vous n'aviez pas vraiment le choix?
Alors, il m'arrive de m'interroger sur est-ce que je n'ai pas eu un guidage familial, tu vois, une orientation?
Oui.
Alors, si on est du domaine de l'orientation, il n'y a pas faute, tu vois. Ouais. Si on est du domaine de l'oppression, si on te conditionne dans le choix de ton trajet, il y a une suspicion considérable et probablement un désastre à venir, tu vois. Mm. Non, moi, le milieu était imbibé d'Ovalie. Mais mon père aimait les matchs. Et ma mère aimait les mots, moi. Mon père, il aimait le rugby. Donc, j'allais voir jouer mon père. Et c'est vrai qu'avoir entendu, alors que dans le milieu dans lequel nous nous déployons, on n'avait pas de champ de haute confiance en nous, quoi. Avoir entendu, dans ma toute petite enfance, Herrero, il est vaillant. Je percevais ça comme étant pas une flatterie, mais une considération humaine. Mon père, il faisait partie des grands s'il était vaillant. Ouais. Tu vois, voilà. Ouais. Voilà. Ensuite, on m'a déposé quand même assez tôt, par le milieu familial, et assez vite, quand même, là, 8, 9, 10 ans, on m'a déposé un peu, je vais dire, sur le parvis du temple. On m'a mis devant le stade, on m'y a accompagné. Je n'ai jamais senti que. On ne m'a pas tiré les oreilles, et on ne m'y a pas mis. On m'a accompagné vers une hypothétique champ de plaisir et de bonheur, pas forcément sur une route décisive.
Oui, le programme est plutôt sympa. Et à l'allure de celui que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous au petit garçon que vous étiez? Qu'est-ce que vous lui diriez avant qu'il ne se lance dans la vie?
Ah, alors là, ça serait un peu plus délicat, parce que j'aurais le goût de l'accompagner et j'aurais pas le goût de lui tirer les oreilles, comme tu l'auras compris. Ouais. J'aurais le goût de lui souffler dans j'allais dire presque dans le dos, plus que de le prendre par la main, quoi. La préoccupation prioritaire pour moi serait il faut que je trouve ce qu'il aime. Il faut que moi, qui l'accompagne, qui suis prof, qui suis enseignant, qui suis peut-être entraîneur et qui suis en même temps peut-être père, tu vois, que je trouve là où ça lui va au cœur. Parce que je sais comme une conviction éperdue que si on l'accompagne vers ce qu'il aime, il y a des chances qu'il soit heureux. Voilà.
Et qu'il réussisse. J'ai un document à vous proposer. Il s'agit d'un document proposé par les Archives nationales qui sont nos partenaires dans cette émission. Je vais vous lire le document pour ceux qui nous écoutent aussi. Il s'agit du compte-rendu technique de maintien de l'ordre des CRS à l'occasion de la finale du championnat de France de rugby 1968 entre le FC Lourdes et le RC Toulon à Toulouse, remporté par Lourdes. Un match pour lequel, je crois, vous n'êtes pas sélectionné par votre propre frère parce que vous vous êtes un peu laissé embarquer par les manifs de 68. Et lors de ce match, il est écrit sur ce document que vers la fin de la deuxième mi-temps, une cinquantaine de jeunes gens supporters de l'équipe du RCT avaient réussi à enjamber les barrières mobiles et qu'au cours des prolongations, quelques jeunes ont envahi le terrain avec des banderoles. Pendant ce match, vous étiez où? Vous vous en souvenez ou pas? Pas du côté de ceux qui perturbaient un peu le...
Oh non, j'aurais pu à la limite être sur le terrain. J'aurais même dû, je pense, parce que j'avais fait tous les matchs de l'année. Mais jusqu'en la demi-finale, tu vois. Mais après, les événements de mai commencent, 68 s'enflamme. Moi, j'ai 20 ans à ce moment-là. Je me mets un peu dans la turbulence. Je ne suis pas un rebelle.
La légende dit que vous avez caillassé des voitures de force de l'ordre, c'est vrai
légende.
C'est la légende.
Me caillasser, je ne sais guère. Mais je me suis mis en face. Je n'avais pas l'impression que j'étais à côté. J'étais pas dans la turbulence mortifère, moi. J'étais dans la seule expression de ma nature, tu vois, et de ma jovialité. Voilà. J'ai pas le souvenir d'avoir été dans la vulgarité inhumaine. Non, mais alors sur le terrain. Alors, effectivement, j'aurais pu être sur le terrain.
Ouais.
J'aurais pu être dans la tribune. En l'occurrence, là, je ne joue pas parce que ça fait 2 mois que je m'entraîne pas. Donc, la finale est bien après. Le fait que ce soit mon frangin qui ait le pouvoir de décision. Ouais, non, c'était pas diabolique. Je sais que j'avais fait 2 ans de manifestation, 2 mois de manifestation. Et que je m'étais moyennement entraîné. Donc j'avais
ça a quand même laissé des traces en vous, cette décision de votre frère?
Oui, fatalement, tu vois. Mais aucune trace d'amertume, plus exactement. Ça va, la vie a ses lois.
Il avait objectivement raison, quoi.
Non, il avait totalement tort. Mais en même temps, ouais, il aurait sans doute dû voir que même si j'avais perdu un peu de mes attributs physiques, ma compétence technique était largement suffisante pour que je joue la finale.
Ouais.
Mais non, j'ai pas sur ce sujet-là, j'ai pas d'amertume. Par contre, effectivement, il y a des turbulences. J'aurais pu être dans la tribune aussi et descendre. J'aurais pu peut-être. Alors là, il y a des turbulences qui sont un peu suspectes parce que elles sont liées à l'événement. Elles sont liées en même temps à Toulon, de ce temps-là, dans son rugby en l'occurrence, génère des supporters un peu enflammés, un peu turbulents. Tu vois, il y a quand même quelque chose autour de... Il y a la permanence d'une manière d'être un peu parano, quoi. On ne nous aime pas à Toulon, tu vois. Le post-68 ans, enfin, juste la période, fait qu'il y a quelques turbulences. Mais enfin, bon... Elles ont donné l'occasion quand même de faire que 40 ans après ou 50 ans après, on reparle.
Vous avez dit, je n'étais pas un maoïste sauvageon, mais totalement de gauche et sensible à l'injustice sociale. Ma famille était communiste, mon père vendait l'humain. Parce que vous avez quand même été politisé tout au long de votre vie, de votre carrière. Certains l'ont peut-être oublié, mais en 97, vous publiez aussi un livre très explicite, Petites histoires racontées à un jeune du Front National. C'est un message d'espoir que vous adressez à la jeunesse pour la dissuader de voter pour le Front National. À ce moment-là, vous êtes très marqué par les élections municipales, je crois, de 95, lors desquelles Toulon est passé entre les mains du FN, en l'occurrence entre celles de Jean-Marie Le Chevalier. Et aujourd'hui, à la lueur de ce que vous avez écrit et de la façon dont vous étiez politisé, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à cette jeunesse qui, aujourd'hui, vote en majorité Front National ?
Alors ça, je ne sais pas. Que la jeunesse d'aujourd'hui vote en majorité Front National, je me mets un peu...
C'est les 25-34 ans, c'est le premier
dire,
vote.
Voilà, ouais. On pourra dire, sur les 18-25 ans, je suis un peu moins formel.
C'est Jean-Luc Mélenchon.
Et sur les, le jeune débutant dans la vie, dans la vie d'adulte, je dirais. Alors moi, le souvenir que j'ai, c'est que la famille, elle n'est pas politisée. Elle est d'extraction modeste. C'est des gens de peu, les miens, quoi, tu vois. Et mon père, il est petit ouvrier, et dans le chantier, il est dans les chantiers navals de la Seine. Il a un petit engagement militant. Il vend l'UMA, il est coco, tu vois. Voilà, ça baigne un peu. Ça baigne l'idée quand même que le pauvre a le droit à la parole, presque, tu vois. Que le pauvre a droit à la répartition des biens. Que le pauvre droit, a aussi droit à dire ce qu'il pense et à me tendre la main en disant si je suis un peu moins pauvre, c'est pas plus mal, quoi, tu vois. Et si les très très riches sont un peu moins riches, c'est pas plus mal. Non, bon, voilà, grosso modo, je peigne que là-dedans, hein, tu vois. Mais enfin, quand même, mon père a vendu mal le dimanche au marché, bon, ça, malgré tout, quoi, tu vois. Et aujourd'hui encore, je suis, je sais pas comment on pourrait dire, mais vice-président de la Société des Amis du Journal d'Humanité, tu vois. Mais, bon, ben, pour dire. Bon, je reste, alors que je, alors, de gauche, alors, voilà, incontestable, tu vois, social, total, prêt encore à toutes les luttes. Après, prêt, ouais.
Prêt à et toutes les luttes.
Oui, toutes les luttes.
Intéressant.
Ouais, ouais, non, Alors, toutes les luttes, ma chemise ouverte, en avant, sur, il faut quand même que l'on, je sais pas, que l'on améliore dans notre société le sort de ceux qui l'endurent, quoi, voilà.
Mes grands-parents étaient des immigrés espagnols, dites-vous, d'extraction misérable, illettrés. Ils ont traversé les Pyrénées pour ne pas mourir de faim, ont travaillé de ferme en ferme et sont morts en parlant espagnol sans jamais avoir pris la nationalité française. Ça vient de là, tout ce que vous nous dites aujourd'hui?
Il est difficile de savoir le poids de tes gènes, de fait. Tu peux te l'analyser, quoi. Tu vois, moi, mes grands-parents sont de l'exil. Mes grands-parents, tu vois, ils viennent d'Espagne, dans l'Espagne de la misère du début du XXe siècle. Ils franchissent les Pyrénées. Ils n'ont jamais les papiers. On les ramène, ils sont attrapés. On le ramène deux fois, mon grand-père, on le ramène en terre espagnole, tu vois. On le rejette du territoire français. Mes parents naissent sur le territoire de France, mais ils sont espagnols à leur naissance. Mon père et ma mère, naturalisés à 18 ans. Bon, c'est pas que je le traîne, hein, tu vois, je me le porte sans aucun doute un peu. J'ai une autre considération du déplacement, de la rencontre de l'autre, de l'ailleurs, moi.
Et une vraie curiosité pour l'étranger.
Oui, voilà. Ouais. Et plus que la peur désastreuse de l'exil. Tu vois, celle-là, je ne l'ai pas trop.
Ce qui caractérise le rugby, ce sont, je l'ai dit, hein, les belles valeurs dont je parlais en introduction et qui sont réunies dans ce livre porté par Philippe Spanghero, au cœur de l'Ovalie. 15 personnalités du rugby, dont vous, mais aussi Vincent Clerc, Thierry Dussautoir, Walter Spanghero, parlent rugby au travers de 150 mots et expressions. Et vous avez choisi le mot équipe, l'équipe. Et vous écrivez, je n'entendais le mot équipe que dans mon club ou dans mes sélections, exclusivement dans le monde du sport et dans son champ lexical limité. Jamais ailleurs, ni à l'école, ni à la télé, ni à l'église. Les valeurs de solidarité et de fraternité que certains appellent les valeurs de l'Ovalie manquent un peu ailleurs.
Ah. Tu vois, le mot d'équipe qui semble retranscrire quand même une aventure collective où des gens en groupe, des gens, tu vois, ont des liens un peu originaux, on ne le définit pas bien. Mais on voit bien que ce n'est pas une famille, que ce n'est pas un clan, que ce n'est pas une palanquée, une meute, une horde, une tribu. Oui, le mot équipe, moi je l'ai beaucoup entendu. Mon père travaillait au chantier naval, il avait un chef d'équipe. C'était dans le monde du travail, mais pas beaucoup. Après, je l'ai entendu que dans le monde du sport. Et aujourd'hui, je vois bien qu'il inonde, qu'il baigne, comme une espèce de noblesse des choses. Comme si tu rentres dans la dimension de l'équipe, hein, tu rentres dans la dimension des liens qui accroche, qui solidarise le monde, tu rentres dans quelque chose qui fait évoluer, quoi. Comme si le terme d'équipe portait l'idée que quand on est ensemble, ma foi, pourquoi pas. Et si en même temps ensemble ça échange, alors ça peut enrichir. Et moi, ça, ligne de vie. La balle était ma compagne parce qu'avec elle, je cheminais.
Vous savez, ces belles valeurs dont je parle dans le rugby, souvent ça agace aussi les supporters de football qui ont l'impression qu'il y a une espèce de petite rivalité entre le monde du rugby et le monde du foot. Le monde du foot disant, mais enfin ça va, les belles valeurs ne sont pas que dans le monde du rugby. Vous la sentez, cette petite rivalité? Qu'est-ce qu'on peut répondre aux... Les belles valeurs ne concernent que le rugby ou il y en a ailleurs?
Dans la pratique corporelle, sportive, tu vois, réglementée, physique, ouais, et il y a des sports collectifs, le foot, le basket, le handball, où tu t'aperçois que aucun ne valorise à ce point le tas, le grand groupe, la fusion, le partage, le rugby, aucun. Tous sont dans quand même des pratiques de distance. Nos amis footballeurs, c'est mes frères, de fait. Non, mais ce sont nos frères. Il y a des petites impertinences. Serait-il titulaire quand même d'une belle âme, tu vois? Des fois, on s'interroge. Alors qu'on aurait presque la sensation, malgré tout, que tu viens dans le champ du rugby, t'es titulaire obligatoire d'une âme respectable et sociale. Obligatoire, il n'y a pas d'autre hypothèse. Dans nos amis footballeurs, tu as la sensation que le narcissisme est plus aiguisé, tu vois, la boursouflure de l'ego est plus éminente, le jeu n'est qu'un jeu de duel, quand tu as la balle, tu es tout seul avec un collègue en face qui défend, et quand toi tu défends, c'est, tu vas essayer de... C'est que des duels, duel ça veut dire deux, mais on joue ensemble quand même. Tu as toujours la sensation que dans un jeu comme le football, et même dans les autres jeux de partie collective, le 1 est un peu dominant sur le groupe. Tu as la certitude que dans le jeu de rugby, le groupe est toujours dominant sur le 1. Voilà.
Intéressant. Alors, je vais peut-être un peu faire la rabat-joie, mais le rugby n'est n'est pas un monde idéal. On y trouve aussi des dérives, de la violence, des choses à corriger. Peut-être avez-vous lu ce livre de Philippe Chauvin, Rugby, mourir fait partie du jeu, le combat d'un père endeuillé. Il a perdu son fils, mort à la suite d'un double plaquage d'une très grande violence. Le gamin avait 18 ans et son père demande aujourd'hui que l'on revoie les règles du rugby. Comment vous regardez ça ?
Cette pratique a des traits identitaires qui en font sa richesse considérable et qui en font un potentiel complexe à gérer. Quoi. Le jeu de rugby, c'est un jeu où on est nombreux.
Rien que
le
fait d'être nombreux. Mais ça a évolué, ça a changé dans le temps.
Oui, oui. Incontestablement, la douleur du pater, tu vois, le départ vers les étoiles de ce minot-là, c'est un drame qui nous impacte, mais de façon diabolique, quoi, tu vois, à l'évidence. Alors, grosso modo, dans un contact, en rugby, il y en a beaucoup. Le rugby, c'est un jeu de chute et de choc. Oui. C'est inhérent. Et donc, tu vas rencontrer
est-ce que ces contacts ne se sont pas renforcés, aggravés avec le temps?
Alors, le professionnalisme, depuis une vingtaine d'années, les joueurs pros, t'es plus là pour passer une belle jeunesse, t'es là pour réussir ta vie, tu t'entraînes beaucoup, tu doubles ton volume, tu mets les colliers à l'horizontale, t'as la gaillardise qui laisserait même penser que l'excès de gaillardise commence à limiter un peu l'excès de pensée. Tu vois, il faut faire un peu attention à ce monde-là, quoi. Le jeu de rugby, c'est historiquement un jeu très dur maintenant, c'est un jeu régulièrement très dur. Moi, par exemple, je plaquais deux ou trois fois par match, si je tombais deux ou trois fois par match, ça pouvait me faire mal. Aujourd'hui, il tombe 25, 30 fois, 35 fois. Les chocs sont plus nombreux.
Donc pour vous, il n'y a pas à changer les règles ?
Si. Les règles ont changé. Alors, bizarrement, et c'est une de ses beautés, une de ses douleurs aussi, c'est une complainte au monde. Le jeu de rugby, toutes les années, il y a deux ou trois règles. Depuis 100 ans. Donc il y a un nombre considérable de règles. Les règles ont toujours deux missions. La protection de l'homme, du joueur, pardon, et la protection de la balle. Mmh. Si tu étouffes la balle en rugby, vite, des règles sont arrivées pour... laisse-la vivre, pour qu'on puisse jouer. Mmh. Et si tu es en danger, et si tu mets l'homme délibérément en danger, vite, on s'aperçoit que les choses sont devenues de plus en plus dures, et à la sortie, alors, chaque année... Tu n'as plus le droit de plaquer avec ton bras sur le cou de l'autre. Tu n'as plus le droit d'intervenir sur la visage. Tu n'as plus le droit, tu vois, tu n'as plus le droit de le renverser par terre.
Donc il y a une remise en question.
Complète. Il y a une peur bleue. Ouais. Il y a une peur bleue que cette douleur potentielle, elle devienne dominante jusqu'à... Mais il y a prix à payer, il y a prix à payer. Il nous reste à espérer que l'éducation, elle ne touche pas tellement les zones de dangerosité. Elle touche que... Il faut que tu te décentres sur l'idée que... Toute forme de combat et de contact n'est pas destructrice, mais qu'elle n'est qu'une hypothèse pour arrêter l'adversaire. Tu vois ça ? Le jour où je rentre sur un terrain pour te faire la misère...
C'est que déjà, il y a un problème.
J'ai
des photos à vous montrer. La première, la voici. C'est une photo du 15 de France féminin. Les sélections nationales en rugby à 15 féminin existent depuis les années 80. Première Coupe du Monde en 91. La France est troisième. Le rugby féminin commence tout juste à s'installer dans le cœur des Français. Est-ce qu'il est installé dans le vôtre ?
Oh, mais plus que ça. Ouais. Ah non, je suis militante de la première heure, moi.
Ah oui.
68. Si tu ne t'en rappelles pas légitimement, tu as mémoire chez très grandes anciennes de ce que ça a pu... Ça laisse germer. Il y a la main tendue à tous dans la liberté d'être. Masculin comme féminin, 68, c'est une gloire considérable sur le bonheur des gens, quel qu'il soit, franchement. Après, il y a toutes ces lourdeurs et ces balourdis. Mais les pratiques sportives masculines, pour l'essentiel, à plus forte raison, les rudes, sont cataloguées dans le clan des machos, des misogynes et des phallocrates. Et les filles qui ne peuvent pas rentrer dans l'organisation fédérale, quoi, tu vois, créent en 68, 70, et moi je mets un peu mon obol ou tout au moins mon soutien, que je suis déjà un joueur répertorié, elle crée la fédération, non pas la fédération, l'association française de rugby féminin. Ça va aller lentement mais sûrement, jusqu'à aujourd'hui être acté. C'est acté. L'égalité, elle y est de fait dans le sens moral. Elle n'y est pas encore dans les réalités. Les filles ne gagnent pas l'argent.
Elle est dans votre esprit déjà, en tout cas.
Oh, totalement. Et tu veux que je te dise, j'ai la sensation qu'elle est dans l'esprit du monde ovale.
Une deuxième et dernière photo, c'est une du JDD. Alors, le titre est un peu prétexte, mais c'est aussi un peu votre journal, votre rédaction, un peu comme Sud Radio. Vous y avez écrit des chroniques. Les journalistes ont été en grève après la nomination de Geoffroy Lejeune à la direction du journal, considéré comme étant proche de l'extrême droite. Comme vous êtes un peu politisé, vous n'hésitez pas à parler politique, j'ai envie de vous demander si vous êtes solidaire du mouvement, de la rédaction du JDD, qui ne veut pas de cette direction d'extrême droite.
Très honnêtement, je répondrais oui, sans hésitation. Dire que le journal du dimanche, j'ai eu le privilège de le côtoyer. Mm. J'ai écrit une chronique régulière pendant 25 ans, donc c'est assez conséquent. Non, je l'avais dans mon cœur et je l'ai toujours d'ailleurs. Et voir la turbulence, ça bouge pourquoi ? On institutionnalise à la direction de l'établissement une personnalité incontestable, tu vois, titulaire d'un potentiel de réflexion incontestable aussi. C'est pas un endormi trouvé dans la rue. À la sortie, en même temps, il affirme aujourd'hui des idées que moi je mettrais dans le clan des ségrégatifs, des ouvertures sociales limitées, avec des considérations politiques que je trouve incontestablement d'une limite humaniste qui me choque, quoi. Voilà. Mmh. À partir de là, ouais, non, c'est pas ta place, mec. Pas ta place. Va avec tes collègues, va où les tiens chantent, c'est le chant que toi tu portes. Bon, après, moi je me mettrai en face s'il faut un jour être en rébellion, quoi, tu vois. Mais par contre, dans une institution comme celle-là, ouverte au monde, ce journal, il a toujours une espèce de liberté de butiner, tu vois, comme ça, quotidiennement, la diversité du monde. Mmh. En même temps, il a une autre considération des choses, de la culture populaire, à plus forte raison. Mm. Bon, non, voilà, moi je dirais, il faut que tu disposes.
Une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes. Nous sommes entourés de 4 statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, la prudence, la justice et l'éloquence. Laquelle de ces vertus vous parle le plus ou vous caractérise-vous ?
Tu vois, évidemment, la justice, quand même, c'est une manière d'être au monde, une loi de fond, quand même. Mm. Mais enfin, j'ai tellement d'angoisse personnelle sur son évolution, elle fait partie des choses que j'aime et sur lesquelles le combat est permanent. Sur la
sagesse.
Ah non, la sagesse, non.
non, c'est pas vous.
Anomalie humaine. Non, je pense. Non, anomalie, je pense. Erreur. Erreur. D'accord. Si on considère que ça burine le monde, que ça le met dans des limitations, ça le met dans des hauteurs de pensée, ça le met dans des limitations d'être, donc je ne suis pas de cette route.
Donc non, la justice ?
Non, l'éloquence.
L'éloquence ?
Ah ouais. Ah ouais, franchement.
D'accord.
Non, franchement.
Ok. Enfin, mais on a compris pourquoi, vous avez parlé des mots.
Ben, c'est par ta présence. Moi, je pense que tu enseignes autant ce que tu es que ce que tu sais, tu vois, Rebecca, y compris dans ton travail. Hein. Mais en même temps, je pense essentiellement quand même que le fait que l'on ait envie de te suivre, de t'écouter, c'est parce que tu nous le formules bien. Tu vois, ouais, je pense. Mmh. Je pense que quand même, ceux qui dirigent le monde, c'est ceux qui se mettent devant et qui l'expliquent ou qui le montrent ou qui, en avançant, font en sorte que le sens que portent les choses soit clairement transmis au monde.
Alors ce sera l'éloquence. Merci. Merci infiniment d'avoir été notre invité ici au Dôme Tournant Sénat. Merci d'avoir joué le jeu de toutes ces questions et merci de tous beaucoup. Ces rituels. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. À très vite sur Public Sénat. Merci.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.